So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death. Mm-hmm. The forensic pathologist didn't have enough concrete elements. But what we can defend is a fall from the attic window with him bouncing off the shed roof. His head may have hit the edge somewhere around here. You see? Then it would have landed on the ground, approximately here. And it seems that he found the strength to crawl 1 meter or two before collapsing in this final position. That explains the blood on the snow. But there are several problems. First, they found nothing on the roof, no DNA, nothing. And there's these three blood spatters here on the wall. It seems it doesn't really match with the head impact on the roof. And the judge has asked an expert to clarify this.
Mm. And when you see this, what do you think?
I don't know. I'm not a spatter analyst. But I know a very good one. So I'm going to get her opinion.
Il y a deux explications possibles à ces trois gouttes. Soit elles viennent de cette zone-là, et donc forcément d'un coup violent reçu par Monsieur Maleski. Soit elles sont consécutives au choc du crâne de la victime avec le rebord de ce toit-là, approximativement à cet endroit. La première hypothèse apparaît comme improbable, hein. Elle ne résiste pas à l'analyse de la forme et de la dynamique de ces projections. Donc, si on se concentre sur la seconde hypothèse, il faut tenir compte absolument du rebond causé par le choc sur le rebord du toit. Je vais vous montrer des images de ce qu'on a pu réaliser sur place. Voilà, donc là, comme on le voit là, sur cette reconstitution avec un mannequin, hein, un tel choc provoque un retournement brutal du corps. Et c'est au moment de ce retournement, ou de cette vrille, une fraction de seconde après le choc, que ces trois gouttes de sang, là, peuvent être projetées sur cette surface. La thèse qui s'impose, c'est que M. Maleski est tombé de la fenêtre du troisième étage. C'est la seule façon, selon moi, d'expliquer et le rebond sur le toit et une telle blessure au crâne.
Je remarque que vous venez de dire, selon moi, autre précaution de langage, qui n'engage donc que vous.
Comment expliquez-vous qu'il n'y ait aucune trace ADN, aucun résidu de tissu au point d'impact ou au point de rebond, comme vous le désignez?
Alors justement, voilà, je vous montre les images. On a réalisé un test qui reproduit les conditions du jour J. Voilà. Au moment des faits, il y avait une couche de glace en dessous d'une épaisse couche de neige. On peut voir la neige chauffer, puis fondre, et on constate, après 1h50, que les écoulements emportent avec eux les résidus que nous avons incrustés au point d'impact. Ils se sont mêlés au sang qui était déjà présent sur cette zone.
Vous venez de décrire l'autre thèse, celle du coup violent, comme improbable. Est-ce que vous diriez qu'elle décrit quelque chose d'impossible ?
Non, c'est pas absolument impossible, mais c'est fortement improbable.
Donc si c'est pas impossible, c'est que c'est possible.
Oui, mais il est également possible qu'un jour je devienne présidente de la République.
Je connais la définition d'une possibilité, merci.
Non, mais quand je dis improbable, dans votre hypothèse, pour expliquer l'angle de projection de ces trois gouttes, il faut imaginer que la tête de M. Maleski était dans le vide, hein, à environ 80 cm de la rambarde. Hein. C'est-à-dire que l'agresseur devait le forcer à être penché dans le vide, acculé contre la rambarde, hein, et tout le haut du corps à la renverse. C'est-à-dire que ça suppose que l'agresseur lui-même, hein, soit vraiment fortement penché en avant. Or, il devait en même temps tenir un objet lourd et en asséner un coup très violent avec un fort élan. Hein. Donc toutes ces données, surtout vu la masse corporelle de l'accusé, rendent cette thèse très improbable.
Mais pas impossible.